Cœur de l'être avec Marie-Lou Brousseau.
Au cœur de l'être, Marie-Lou Brousseau. Je serai avec vous durant la prochaine heure avec Pierre Degagné à la technique. Ça fait un bon moment que j'avais envie de dialoguer avec mon prochain invité, Jean Désy, un nomade, un humanisme dans l'âme. Il a terminé des études de médecine avant d'entreprendre un doctorat en littérature, suivi d'une maîtrise en philosophie. Et depuis, c'est ce qu'on dit, il vogue entre le Sud et le Nord, entre l'écriture et l'enseignement, entre la pratique de la médecine et la littérature. Il a publié plusieurs romans, des nouvelles, des essais, des récits, notamment « L'esprit du Nord », L'accoucheur de Cuissard et La route sacrée qui ont tous été publiés aux éditions XYZ et je ne compte plus les prix et les distinctions qu'il a reçus. C'est époustouflant et à la fois merveilleux. Bravo. Alors aujourd'hui, il vient nous présenter son nouvel ouvrage que j'ai lu cette semaine, L'irrationalité nécessaire de Platon à Einstein, les poètes. C'est un essai qui a également été publié aux éditions XYZ. Bienvenue au cœur de l'être, Jean Désy.
Ça me fait plaisir, cher. Merci beaucoup.
Avant d'échanger autour de votre livre, j'aimerais ça que l'on dresse un portrait de vous. D'abord, vous êtes originaire de Québec, c'est ça?
Non, je suis né au Saguenay, à Kenogami. Mais j'ai passé toute mon enfance à Québec, dans la banlieue à Sainte-Foy, mais je suis né au Saguenay.
Je lisais votre parcours pour réaliser qu'il est vraiment exceptionnel. En tout cas, je pense que ça fait 20 ans que je fais de la radio, je pense que je n'ai jamais vu un parcours aussi vaste, aussi grand. C'est absolument incroyable. Et ce qui étonne, c'est le nombre de programmes que vous avez suivis. D'abord, vous avez commencé au cégep François-Xavier Garneau et vous êtes diplômé en sciences pures. Qu'est-ce qui vous attirait préalablement dans ce champ-là, dans ce champ d'études?
Je pourrais jamais vous dire qu'est-ce qui m'attirait parce qu'en fait, j'ai toujours aimé beaucoup aller à l'école. Puis ma vie a été formée par le scoutisme à partir de l'âge de 9 ans. C'est que j'ai étudié avec grand plaisir, je suis allé à l'école. Au cégep, je me suis inscrit en sciences pures, mais sans aucune raison précise, peut-être parce que c'était plus difficile. Mais ce que fait ma vie jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est d'aller en forêt, en nature, en excursion, dans le bois. Puis pour les études, c'est comme si ça me cassait pas la tête. J'ai toujours aimé profondément étudier, comme actuellement, j'aime comme un fou enseigner. Ça fait partie de ma vocation. Donc, entre étudier et enseigner, il y a une espèce de ligne extrêmement mince. Et j'enseigne à l'Université Laval là, depuis 25 ans en médecine, puis depuis 20 ans en littérature. C'est que mes études au cégep, tout ce que je peux vous dire, c'est que le héros de ma jeunesse, c'était Che Guevara. Et je suis allé en médecine, peut-être parce qu'il était médecin. Je suis allé en médecine avec l'idée d'aller travailler dans le sud, d'aller travailler pour Médecins sans frontières, pour toutes sortes de raisons techniques, entre autres parce que la mère de mes enfants voulait s'installer sur la Côte-Nord, on est allé sur la Côte-Nord. Mais grosso modo, ce qui a été plus conscient, c'est les études littéraires, le fait après quelques années en médecine de dire « je vais aller en littérature pour enseigner en littérature ». Puis j'ai fait un doctorat en littérature, puis j'ai fait une maîtrise en philo, pour justement parfaire ces études-là, pour réussir à me trouver un poste en enseignement. La vie a fait que j'ai continué à pratiquer, mais grâce au Nord et grâce au Grand Nord, grâce aux Autochtones et aux Inuits. Puis ma vocation première, moi, c'est d'enseigner. J'écris beaucoup, avec joie, pour pouvoir donner des spectacles de poésie, puis surtout pour pouvoir enseigner mieux. J'ai le sentiment de comprendre mieux la littérature grâce à l'écriture.
Mais c'est quand même étonnant que votre cheminement vous amène d'abord à faire un doctorat en médecine. Est-ce que déjà, au moment où vous vous inscrivez en médecine, vous avez déjà un attrait pour la littérature?
Non, je n'avais jamais pensé de ma vie à la littérature. J'aimais lire. J'ai lu de la science-fiction comme un fou quand j'étais adolescent. J'ai découvert Dostoïevski grâce à un prof au cégep Garneau, là, un jésuite. Et c'est comme ça que j'ai tout lu Dostoïevski quand j'étais à Garneau, mais c'est ma découverte. Pour moi, Dostoïevski, c'est comme Jean-Sébastien Bach, c'est le Jean-Sébastien Bach de la littérature. Mais c'est après avoir fini mes études, lorsque j'ai suis entré en contact avec le monde de la maladie et de la mort, que là, il m'est apparu évident qu'il fallait que j'ouvre mon espace à plus que la seule science ou au seul soin. C'est pour ça que moi, la littérature, pour moi, c'est mon rapport à l'art. Je considère la littérature comme un art à part entière, comme la musique ou la danse ou la peinture. Et c'est comme ça que je l'enseigne. Donc, j'ai pu ouvrir mon champ d'existence en allant en littérature parce que j'avais besoin de toucher au monde artistique qui m'avait été jusque-là à peu près inconnu. Et c'est pour ça que, en fait, mais là, il y a eu des lectures aussi fondamentales là, dans ma vingtaine. Là, Carl Gustav Jung est un maître à penser, justement, dans l'irrationalité nécessaire, j'en parle, puis il est resté un maître à penser. Je l'ai connu, entre autres, grâce à un excellent prof, là, Maurice Aymon, que j'ai eu en littérature rapidement. En fait, il y a quelques auteurs, dont Jung, qui ont été fondateurs dans ma pensée et dont je me sers encore, qui sont des mentors pour moi au point de vue réflexion.
Du fait qu'on enseigne la littérature, qu'on aime la littérature, qu'on en mange s'il le faut, est-ce que ça fait de vous nécessairement un écrivain au départ? Parce que il y avait d'abord la médecine, ensuite est venue la lecture, mais pas nécessairement l'écriture, ou c'était en parallèle?
Bien, c'est une belle question. En fait, je pense que c'est pas nécessaire d'être écrivain pour enseigner. Il y a d'excellents enseignants qui écrivent pas. C'est pas nécessaire de... En fait, tout est possible. Moi, j'ai eu envie d'apprendre à écrire parce que j'avais envie d'enseigner. J'ai eu le sentiment que c'est comme ça que j'entrerais plus dans le monde de la littérature. Et c'est vrai en partie, dans la mesure où là, j'ai eu la chance d'avoir des profs artistes et non pas seulement des analytiques ou des gens qui réfléchissaient à la littérature. J'aime profondément la littérature comme art dans toutes ses dimensions artistiques. Mais évidemment, ce que je peux dire, c'est que mon rapport à l'écriture a pris du sens à partir du moment où je suis allé dans le Grand Nord. Mmh. En 90, j'ai fini mes études en 78, mais la première fois que j'ai mis les pieds dans le Grand Nord, dans la toundra, c'est le 2 janvier 1990, et là, ça a été un moment fondamental dans ma vie. C'est là que je dis que mon âme a volé pour la première fois. J'ai senti le vol de mon âme, avec tout ce que ça comporte comme définition, le mot âme. Et l'écriture, à ce moment-là, est devenue différente. Au lieu d'écrire des essais, j'ai écrit d'ailleurs un recueil de poésie sur lequel dont je me réfère encore, là, qui me sert encore de point de référence, c'est « Au Nord, mon amour ». Puis j'ai écrit beaucoup, beaucoup de recueils après, mais « Au Nord, mon amour », c'est ma découverte de la toundra et du Grand Nord par la poésie. Et là, c'est un moment clé dans ma vie. Donc, puis j'ai pu aller dans le Grand Nord grâce à la médecine. C'est une espèce de jeu de balancier entre les voyages, le nomadisme, la médecine, la pratique avec les Autochtones, puis l'écriture, la poésie, puis l'enseignement. En fait, tout ça est mêlé. Mais je suis un nomade, donc je ne me satisferais pas d'avoir une seule activité unique jamais.
Non, mais clairement, parce que quand je regardais vos activités que vous appelez complémentaires, mais ça, c'est incroyable, vous avez voyagé dans le cercle arctique en Alaska, vous avez fait un grand tour des États-Unis, 24 000 kilomètres, vous avez fait un séjour en Nouvelle-Zélande, en Alaska, au Népal, bon, je suis un peu jalouse pour le Népal, vous avez fait un séjour dans les Alpes françaises, vous avez monté, escaladé des monts, le mont Meru, vous avez fait du trek au Kilimanjaro, le Mont Blanc que moi j'ai déjà vu depuis Annecy, qui est magnifique. Donc, c'est comme si je voyais en Jean Désy, bon, vous parlez de nomade, mais il y a aussi toutes ces activités-là qui font aussi de votre plume une plume nomade.
Oui, j'aime ça beaucoup. C'est un beau compliment quand vous dites que j'ai une plume nomade. J'ai découvert mon trait nomade grâce aux Indiens. Je dis les Indiens, mais les Autochtones, les Innus, les Cris. Maintenant, c'est difficile, on peut plus dire le mot Indien, mais toute ma vie, moi, j'ai entendu les Autochtones parler des Indiens. En tout cas, sans les Innus et les Cris, et sans les Inuits, j'aurais pas découvert cette fonction nomade qui est la mienne. Donc, c'est certain que ma plume, comme ma vie, est essentiellement liée à ce nomadisme qui fait partie de moi. J'accepte une certaine sédentarité pour préparer mes cours, pour vous rencontrer aujourd'hui, mais c'est toujours relatif. Ma joie vient de mon rapport au voyage et à la voyagerie mentale et à l'écriture, mais associée à la voyagerie physique, donc aux expéditions.
Et là, en ce moment, ce que vous faites, c'est vous enseignez la littérature, vous êtes également médecin, mais pas plus dans le Grand Nord.
Ben en fait, la dernière fois que je suis allé dans le Grand Nord, c'est il y a 2 ans, parce que j'ai écrit un essai qui s'appelle « Être et n'être pas », chronique inuit. C'est parce que le monde inuit contemporain québécois est très souffrant. Il y a 10 à 15 fois le taux de suicide dans le Sud. Donc, j'ai voulu réfléchir là-dessus, parce que ça fait quand même 30 ans que j'y vais. Et là, depuis quelques années, j'ai voulu vous laisser un peu de temps, parce que c'est quand même particulier. Je me suis permis ça, même si je ne suis pas inuit, parce que je suis médecin. Là, depuis 8 mois, la COVID nuit à mon activité médicale dans le Nord. Je suis allé il y a 10 jours à travailler à Port-Cartier comme dépanneur sur la Côte-Nord. Mais ma vie médicale tourne autour du dépannage depuis 20 ans. Là, et ça me convient fort bien comme nomade, en fait. Et là, je compte retourner avec grande joie là, en 2021. Où je suis allé le plus dans les dernières années, c'est à Saint-Louis. Mais grosso modo, il y a des périodes que j'ai passé 3-4 mois d'affilée dans le Grand Nord, à Pauvenetouk ou à Inukjuak. Mais l'espace dans ma vie qui m'a le plus influencé ou qui m'a le plus animé, c'est l'espace toundrique. C'est la toundra arctique. Avant même les humains, c'est l'espace toundrique qui m'a, moi, complètement chamboulé. En fait, ma vie n'aurait pas été la même si je n'avais pas mis les pieds dans la toundra.
Mais c'est un petit peu ça qu'on ressent, en tout cas que je vais parler pour moi, que je ressens quand je lis vos livres, c'est cet espace. Il y a un espace dans vos mots, il y a un espace qui vient de vous, évidemment, parce que vous tenez la plume, mais c'est un espace qui nous fait grandir et qui nous fait découvrir autrement ce que vous voyez avec les yeux du nomade, de la personne qui va et vient dans tous ces endroits-là.
Bien, j'apprécie beaucoup vos commentaires. En fait, c'est très touchant toujours d'avoir quelqu'un qui a lu quelques livres. Puis en même temps, je réfléchis avec vous sur mon parcours. Mais c'est vrai que, dans le fond, mon rapport à l'espace est nomade. Ma psyché nomade est totalement dominante par rapport à ma psyché sédentariste. C'est pour ça que, depuis 8 mois, je peux pas vous dire que je trouve ça très sympathique, cette espèce de confinement relatif, parce que j'ai quand même été sur la Côte-Nord. Je m'en vais en Gaspésie la semaine prochaine pour aller marcher dans les montagnes. J'ai fait du kayak en masse, mais la restriction dans un seul espace géographique, même s'il est grand comme le Québec, me satisfait moins, parce que comme là, ces années-ci, moi, j'ai la chance d'avoir 4 enfants, mais ma dernière fille a beaucoup voyagé. Puis les derniers voyages qu'on a faits, c'était au mois de mars, on s'est retrouvés dans le désert de la mort en Californie. Puis l'été précédent, on avait été 1 mois en Alaska. Et moi, j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande chez les Maoris. Puis là, j'avais amené vivre avec moi ma 3e fille, celle qui maintenant a 2 jumeaux puis qui a 36 ans, là, mais elle était venue vivre avec moi quand elle avait 16 ans en Nouvelle-Zélande pendant plusieurs mois.
Tout à l'heure, vous parliez de l'âme et ça m'a intriguée. Et je me disais, qu'est-ce que Jean Désy, quand il voyage comme ça, quand il écrit, quand il enseigne, c'est un pédagogue, vous êtes un pédagogue. Qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce que vous allez chercher dans ces grands voyages?
C'est une question à multiples volets là, qui serait longue. La réponse pourrait être longue, mais en fait, je voyage pour rester dans le sens le plus intime de ma vie. En voyage, les nomades sont comme ça. Les artistes sont souvent des nomades. Les Inuits et les Cris sont les êtres les plus nomades que j'ai pas rencontrés. Les Inuits et les Cris, entre autres, qui vont vraiment bien ces années-ci, ont pris contact avec tout leur territoire du Iwichi parce qu'il y a des milliers de kilomètres de route de bois. Et essentiellement, les nomades sont bien dans leur être dans la mesure où ils sont en déplacement. Et c'est à ce moment-là qu'ils font les bébés, c'est à ce moment-là qu'ils écrivent, c'est à ce moment-là qu'ils pensent leur vie. Ils n'ont pas besoin d'avoir une maison solide où ils vont pouvoir s'ancrer, bien qu'ils aient besoin d'une place où se reposer quand ils sont malades pour mettre leur bagage. C'est que, pour répondre à votre question, mon espace mental est nomade. Donc, plus je nourris de voyagerie, d'expédition, moi, j'ai découvert le Nord, grâce à mon mentor, Louis de Montamelin, qui est mort il n'y a pas longtemps, là, un géographe remarquable, et c'est lui qui m'a fait rêver du Nord. Donc, comme nomade, la rêverie était pas suffisante. Il fallait que j'aille dans le Grand Nord. Je suis allé dans le Grand Nord québécois. J'ai rêvé toute ma vie d'aller en Sibérie. Un jour, j'irai. J'ai pu aller au Népal et au Ladakh aussi, en haute montagne. La haute montagne est pour moi, à la verticale, ce que je ressens. Ce que je ressens, moi, en haute montagne, c'est ce que je ressens à la verticale dans la toundra. Dans la toundra, je suis allé à l'horizontale. En haute montagne, quand j'ai fait le Mont-Blanc ou quand je suis allé vers le camp de base d'Everest ou quand j'ai fait une longue promenade vers la base de l'Annapurna, j'étais dans un espace toundrique. Au-delà de 4000 mètres, on est vraiment... C'est extraordinaire les liens qu'il y a entre la toundra du Grand Nord québécois et l'espace toundrique de la haute montagne en haut de 3500 ou 4000 mètres.
Et là, vous nous arrivez avec un nouveau livre qui est aussi un autre espace, un autre lieu de grandeur, je dirais. Ça s'intitule « L'irrationalité nécessaire de Platon à Einstein, les poètes », qui a été publié aux éditions XYZ. Et comme vous mentionnez sur votre quatrième de couverture, votre livre se veut un plaidoyer pour un monde mélangeant de place à la poésie et à l'intuition. Et vous dites... ce n'est pas que Descartes avait tort en énonçant son « je pense, donc je suis ». Le problème se situe plutôt dans un abus de raison. Et si, à force de nous remettre à la logique rationnelle pour bâtir nos sociétés, leur approche pédagogique, leur système médical, leur rapport à la science, au mystère, nous nous étions imposés des œillères par peur du vertige, perdant de vue une part essentielle et rationnelle. Qu'est-ce qui... Bon, je sais que ce livre-là, en fait, découle d'une thèse, c'est bien ça?
Ben, en fait, je vous l'avais dit, là, votre lapsus est excellent. C'était mon mémoire de maîtrise en philosophie, puis j'étais accompagné par Thomas de Conin, qui est un remarquable philosophe qui a écrit beaucoup. Et je l'ai écrit il y a 30 ans. Et c'est avec mon éditrice actuelle, Myriam Caron-Bézil, qu'on a pensé que le sujet était encore pertinent parce que le monde de l'irrationalité est trop souvent confondu avec le monde de la folie, surtout depuis quelques siècles, surtout en Occident. Et ma conviction plus que jamais, c'est que si on participe pas à notre univers personnel et l'univers des autres, via l'irrationalité, il y a un problème majeur de contact avec le monde. Sans remettre en question la validité de la science qui est fondée sur la raison, sans remettre je mets pas en échec tous les facteurs qui permettent de créer avec qualité des éléments techniques grâce à la raison, mais l'irrationalité est une fonction fondamentale. Puis là encore, là, c'est Jung qui m'a été l'enseignant majeur. La fonction irrationnelle, c'est une fonction que moi, j'ai découvert en lisant Jung, j'étais un intuitif extroverti, il y a des introvertis, puis comme intuitif, mon rapport au monde, d'abord de perception et par l'intuition. Je réfléchis, je pense en écrivant après avoir eu l'intuition du monde.
Yeah. down.
On vient d'entendre Kashtin, Shteteyan.
Alors la question dans le fond, Jean-Désy, pour comprendre l'irrationalité nécessaire, je pense que d'abord, j'ai envie qu'on comprenne c'est quoi la rationalité et comment dans votre propre vécu, ça a pris quand même une place prépondérante. Parce que moi, ce que j'imaginais en lisant, je me disais, tiens donc, c'est étrange, cet homme-là qui est à la fois normal, mais à la fois un médecin. Donc, ça prend beaucoup de logique, beaucoup de rationalité pour passer au travers un tel cursus universitaire. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de comprendre avec vous tous ces petits méandres-là. Donc, d'abord, peut-être, c'est quoi la rationalité versus l'irrationalité?
En fait, ça aussi, c'est une question qui est très, très complexe, puis j'en traite. En fait, tout l'essai, l'irrationalité nécessaire, parle de ça. En fait, la fonction rationnelle est une fonction qui fait partie de la psyché des humains. La fonction irrationnelle aussi fait partie de la psyché des psychés des humains. Et là, je parle en termes jungiens, mais il y a des humains qui ont une fonction rationnelle, donc une raison, donc qui sont des types pensés, qui fonctionnent d'abord comme ça, leur perception du monde, se passe d'abord par la raison et par la pensée rationaliste. Mais il y a une catégorie d'humains extrêmement nombreuse, la moitié des humains probablement, qui ont une fonction irrationnelle, dont la fonction irrationnelle est prépondérante. Le hic, c'est que le monde dans lequel on se situe, l'univers contemporain fondé sur la technoscience, a été bâti par les qualités de la fonction rationnelle indubitable. Mais la fonction irrationnelle, la fonction artistique, la fonction poétique, la fonction intuitive, est une fonction qui est souvent mise à l'écart ou pas beaucoup considérée par le monde contemporain. Donc, vous disiez tantôt, c'est vrai que les études médicales demandent des connaissances, demandent des apprentissages qui sont d'ordre rationnel, mais pratiquer la médecine, ma conviction profonde, c'est soigner des gens en espérant les guérir, et c'est recevoir des gens qui vont parfois mourir, et ça demande des qualités irrationnelles autant que rationnelles. C'est certain que si vous êtes neurochirurgien, ben lorsque vous enlevez une tumeur, vous servez de toute votre connaissance et de votre rationalité, mais le contact avec l'âme du patient est un contact qui demande autant, sinon plus de qualités irrationnelles que rationnelles. Donc, puis moi, comme je disais, j'ai découvert grâce à Jung que j'étais un irrationaliste, que ma fonction irrationnelle dominait ma fonction rationnelle. Je suis capable quand même de rationalité, mais finalement, pour faire une conclusion, la qualité de l'être, la qualité de tout être dépend de l'état d'équilibre entre l'animus et l'anima, entre la fonction rationnelle et la fonction irrationnelle. On est toujours dans un jeu transporté par deux chevaux. Ça, c'est l'image de Platon, un cheval blanc rationnel et un cheval noir irrationnel. Et c'est la conjonction de la force des deux chevaux qui fait la qualité de la façon avec laquelle le traîneau est tiré. C'est que moi, je suis persuadé de ça. Donc, si je voulais être sévère un peu, parlons de la COVID depuis 8 mois. Le traitement de la COVID, à juste titre, souvent, est abordé strictement d'un point de vue rationaliste, l'irrationalité est laissée de côté, ce qui est un problème. Et il ne faut pas se surprendre que l'angoisse existentielle ou l'angoisse tout court domine dans beaucoup de pays qui sont menés par la fonction rationnelle.
Quand je lis Jean Désy, des livres aussi importants que pour moi, j'en discute souvent autour de moi pour voir c'est quoi l'opinion générale par rapport, et dans ce cas-ci, par rapport à l'irrationalité. Et ce qui ressortait souvent et qui m'a un peu comme bousculée, si je pourrais dire, c'est qu'on disait que l'irrationalité, c'était surtout de l'illusion, de l'imagination. Alors que c'est beaucoup plus que ça, quand vous dites que c'est Jung qui, la lumière de Jung vous a été nécessaire sur la voie de l'irrationalité, je pense que c'est beaucoup plus, et même, et ça va avec l'imagination.
Oui, ça va avec l'imagination, mais ça aussi, c'est vraiment un majeur comme thématique, ce que vous abordez là. Il faut lire aussi les scientifiques comme Schrödinger, Pauli, Heisenberg, lire Einstein quand il écrit « Comment je vois le monde » pour découvrir comment les grands scientifiques qui se servent de leur raison, évidemment, savent bien comment leur imagination créatrice et aussi leur fonction intuitive qui est irrationnelle est absolument essentielle pour arriver à E égale MC carré, exemple. Donc, le hic, c'est que si on considère la fonction irrationnelle, la fonction sensible, la fonction sensation, la fonction intuition dans le rapport au monde comme secondaire, mais c'est là qu'on va dire ben tout n'est qu'illusion. Vous les artistes, vous pouvez toujours nous distraire, mais arrêtez de vous inventer des histoires quelque part. Cette manière très, très cartésienne, mais trop cartésienne, hyper cartésienne d'aborder le 21e siècle est, à mon point de vue, entre autres, une des causes des détériorations climatiques. Puis, je fais un court-circuit, là. Si on n'est pas en amour avec son environnement, comme si on n'aime pas profondément les humains, ben on peut pas vouloir protéger cet environnement. Et si on est un soignant, puis qu'on n'aime pas les malades, on ne peut pas vraiment les soigner. On peut toujours faire une chirurgie pour remettre un tibia droit quand il est tout cassé en trois morceaux. Mais je dis à mes étudiants, moi, si un jour vous avez le sentiment que vous n'aimez plus vos patients, il faut avoir le courage de plus pratiquer. C'est impossible, à mon point de vue, de soigner les autres sans les aimer de tout son cœur et de toute son âme. Mais là, je semble exagérer, mais cette fonction d'amour est fondamentalement associé à l'irrationalité, aussi à la rationalité. On peut aimer pour des raisons rationnelles, mais l'amour gratuit, l'amour agapane, pour parler du quatrième type d'amour chez les Grecs, l'amour divin. Oui. Puis là, ben, je veux dire, on pourrait aborder le monde du mystère, le monde du divin, le monde de la spiritualité, le monde de la prière, le monde du cosmos avec Dieu. Ben, évidemment, si on n'accepte pas la fonction irrationnelle, ben là, on met un point final. À la Nietzsche, on dit « Dieu est mort » parce que la fonction rationaliste humaine ne peut pas tolérer cette espèce de mystère qui, finalement, est insoluble.
Donc, on pourrait dire qu'il y a une irresponsabilité rationnelle.
Exactement. Oui, tout à fait. Bravo. Il y a autant une irresponsabilité rationaliste comme il peut avoir une irresponsabilité irrationnelle. C'est certain que de courir tout nu à moins 25 en criant « Vive Bouddha » sur la rue Saint-Jean, c'est pas très, très sain. Mais je fais des blagues, là, mais j'ai déjà vu ça, là. Quand quelqu'un est pris par un état de psychose, mais c'est dangereux d'associer ça seulement avec un état de décompensation irrationnelle. Mmh. C'est vrai. C'est rationalistement, c'est avec toute la force rationaliste que les guerres se sont créées. Je veux dire, le nazisme est une entreprise rationaliste, pas avant toute chose, mais aussi rationaliste que irrationnelle.
Vous parliez aussi beaucoup du thème de la liberté. Et la liberté va aussi avec les mots. On ne peut pas utiliser n'importe quel mot parce qu'on parle d'irrationalité. Et c'est des pièges souvent, comme vous le dites. Les mots ne sont finalement qu'un moyen, jamais une fin. Et très souvent, lorsque juxtaposés les uns aux autres, ils finissent par fonder des idéologies, des normes, des dogmes. C'est ce que vous dites dans votre livre.
Oui, oui, bravo. J'aime beaucoup ce que vous dites parce que ça ramène à l'essentialité de la poésie. Je vais aller vite encore une fois. Moi, j'aime comme un fou parler de poésie, comme les deux derniers cours, on parlait de « Regard régional de l'espace » de Saint-Denis Garneau. La poésie semble complexe, mais le jeu des mots, grâce à la poésie, fait en sorte qu'on est moins en danger d'être captif d'un dogme qui enferme le mot dans une seule direction. Prenez l'exemple du poème « La terre est bleue comme une orange ». Quelle extraordinaire image qui empêche de restreindre la terre à une boule bleue. Mais quel lien qu'on peut faire entre l'orange et le fait que la terre soit bleue, fascinant. Donc, on sent que le poétique, la poéticité, la poésie permet de ne pas s'enfarger ou de s'emprisonner dans des mots qui, finalement, peuvent vraiment être délétères. Comme je me sens besoin de... Je me sers de vous pour parler un peu de ce temps covidien. La mort, la peur de la mort, qui est tout à fait légitime, est devenue à ce point morbide face à un microbe qui est pandémique que finalement, beaucoup d'individus sont tout à fait dépourvus face à une réalité qui est inéluctable. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit mourir demain matin puis que c'est rigolo de mourir puis qu'on doit mourir à 25 ans ou à 70 ans, mais cette espèce de retrait de la réalité de la mort qui est une espèce de... ça semble un cul-de-sac, mais irrationnellement, on peut y voir aussi un appel à plus, un appel au divin, un appel à ce mystère qui nous fait. C'est que si on ne voit pas les choses comme ça, la restriction avec les mots en disant, là, j'ai entendu, moi, de façon dramatique, pendant des semaines, dire « on veut pas que les personnes âgées meurent ». Mais là, on a emprisonné des gens âgés tout seuls dans des appartements pendant des semaines parce qu'on voulait pas qu'ils meurent. Mais c'est parfait de vouloir protéger la vie de quelqu'un. Mais en même temps, comme soignant, moi, toute ma vie, lorsqu'on arrive en fin de vie, il y a comme un accompagnement obligatoire avec amour et irrationalité, avec art, qui fait que quelqu'un meurt. C'est comme ça dans les CHSLD, c'est comme ça aussi dans les soins palliatifs. Donc, la fonction rationnelle techno-scientifique exagérée a tendance à mettre de côté la beauté de l'accompagnement face à la mort.
La beauté du mystère aussi. Tout à l'heure, oui. Vous parliez d'une orange bleue, on parle de la mort, on parle d'une façon de voir aussi la vie en même temps. Et c'est un peu comme un koan, hein? L'orange bleue, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais en même temps, ça aide à aller justement du côté de la poésie et de laisser l'imaginaire entrer dans ce que vous appelez l'irrationalité, mais l'irrationalité poétique.
Tout à fait. En fait, le problème aussi, c'est la difficulté de jongler avec le mot « imaginaire ». L'imagination créatrice, dont parle beaucoup Carl Gustav Jung comme bachelor, je veux dire, les fondatrices, les artistes sont tous à peu près mus par cette fonction qui est l'imagination créatrice. Mais c'est pas parce que c'est de l'imagination créatrice qu'on est dans la seule illusion ou dans la seule folie où on fait n'importe quoi. Je veux dire, quand Van Gogh fait ses tableaux, il est dans la pure imagination créatrice qui nous laisse, mais totalement, qui nous offre un champ de vie, de possibilités qui est hallucinant. Quiconque a vu une toile de Van Gogh, souvent, en tout cas, c'est un de mes peintres préférés. C'est comme si quelque part, ça demande, l'analyse seule est insuffisante pour dire ce que Van Gogh nous fait ressentir. La même chose pour la musique. Je veux dire, mais jamais je nierais la valeur de la musicothérapie ou dans le cas des études musicales ou pour comprendre un peu mieux les préludes et fugues de Bach. Mais essentiellement, la musique de Bach, comme la grande musique, comme la musique du monde, nous entre par la peau et nous met dans un état qui est salvateur. En fait, sans la musique, sans les arts, la vie humaine, on peut se demander si elle vaut vraiment la peine. Les dictates rationalistes qui disent qu'il faut être en sécurité, donc pas toucher à personne, donc pas sortir de sa maison, être dans le confort douillet de son appartement, écouter des vidéos, moi, ça m'apparaît insignifiant. Je dis pas qu'il faut pas faire attention quand il y a un problème, une guerre ou une pandémie, mais il y a des dangers d'accepter cette restriction de sens et qui aussi est une restriction d'imagination. L'imagination créatrice, c'est que quand on est soi-même en ski de fond, en plein bois au mois de janvier, à moins 30, on est obligé de se servir de son imagination pour entrer en contact avec les mésanges. Voici un espace de mystère relatif, mais de joie profonde.
Mais un mystère relatif, mais en même temps, pour être en présence de ce mystère-là, ben, il s'agit d'abord, un, d'être présent à ce qui est là, et aussi dans une attitude d'écoute profonde. Si on n'est pas à l'écoute, le mystère, on saisit même pas qu'il y en a un.
J'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup. Moi, j'ajouterais tout de suite, sans la foi, et là, je veux pas faire le prosélyte au point de vue religieux, mais sans foi, si on n'a pas la foi dans le mystère est pas. Je veux dire, le mystère a du sens dans la mesure où on accepte d'avoir la foi que ce mystère-là a du sens, même s'il reste mystérieux. Il y a comme une espèce d'impossibilité cartésienne ou rationaliste face au mystère, face au divin, face à la joie pure, face à l'amour agapane, l'amour grandiose, sort des normes habituelles de dire, bon, ben là, je vais avoir du plaisir parce que je vais arrêter de marcher une demi-heure puis mon corps va se sentir mieux. Puis là, ben, je caricature un peu beaucoup, là, mais reste quand même que la joie, je veux dire, il faut lire Simone Veil avec la pesanteur et la grâce. Je veux dire, la joie, c'est du côté de la grâce. La pesanteur est très souvent liée à la seule fonction rationaliste. Si vous aimez Simone Veil, là, pour moi, c'est une des grandes penseurs du 20e siècle, une philosophe majeure, et elle a un rapport, elle a un discours qui permet de plonger dans une notion aussi difficile que qu'est-ce que la grâce avec un G majuscule.
C'est magnifique, c'est une femme exceptionnelle, effectivement. Il y a aussi Jean Domerson dont vous parlez, qui dit qu'il n'y a de liberté que devant, il n'y a de nécessité que derrière, mais beaucoup de nécessité vient se mêler par devant aux rêves, aux illusions, à la griserie de la liberté. Mais en même temps, j'aime beaucoup cette citation-là, mais il y a aussi celle de Milan Kundera, que j'ai tellement aimé cette citation-là quand je l'avais lue dans les Testaments trahis et que vous avez aussi mis dans votre livre. Dans l'obscurité, on ne voit rien, on est aveugle, on est à la merci, on n'est pas libre. Dans le brouillard, on est libre, mais c'est la liberté de celui qui est dans le brouillard. Il voit 50 mètres de lui, bon, etc. On peut voir, on peut se délecter de la beauté de ce qui est là, mais on reste dans le brouillard. Et ma question, c'est une question évidemment qui me hante depuis fort longtemps, qui est une question portant sur la liberté. Est-ce qu'on est vraiment des êtres libres? Que ce soit au niveau, est-ce que je suis libre d'être rationnel? Est-ce que je suis libre d'être irrationnel? Est-ce que je suis toujours entouré d'un brouillard qui me donne une liberté limitée? Ce qui fait que si j'ai une liberté limitée, je n'ai pas de liberté, elle est limite.
Écoutez, votre question est extraordinairement intéressante, puis j'apprécie beaucoup. Mais là, je suis obligé de répondre assez vite, bien qu'on pourrait prendre des jours à discuter de ça. Mais je fais une parenthèse. Moi, je fais lire le Tao Te King de Lao Tzu à mes étudiants. On a lu ça il y a un mois. Et dans le Tao Te King, on ne dit pas d'éclairer l'obscurité, on dit d'obscurcir l'obscurité. C'est que pour répondre à votre question, moi, à mon sens, dans la totale obscurité, il n'y a pas de liberté possible parce qu'il n'y a pas de possibilité de mouvement. On est dans le néant, d'une certaine manière. Dans la lumière totale qui est éblouissante, c'est comme si cette lumière-là disait, là, ton devoir, là, c'est de partir pour aller travailler, même si tu es épuisé de travailler, puis parce qu'il faut que tout à coup tu joues la guitare. Il y a comme, je caricature, là, voici une limitation de liberté. La citation de Kundera est extraordinaire. Ce brouillard qui est ni l'obscurité, ni la pleine lumière rationnelle, est un brouillard nécessaire pour que tout à coup, un être vivant ait le sentiment profond de créer sa vie. Et cette création-là, même si elle est assujettie à des éléments de génétique, des éléments de destin, de destinée indubitable, il y a un pressentiment que cette liberté-là peut exister. Mais là, est-ce que la liberté existe? Ça, c'est une immense question que personne n'a jamais résolue. Tous les philosophes se sont questionnés là-dessus, les grands littéraires aussi. Mais moi, je pense qu'il faut choisir le brouillard. Puis cette proposition taoïste d'obscurcir l'obscurité, c'est comme de créer un brouillard à partir de cette obscurité et de cette lumière qui sont si souvent opposées. Fait que dans le fond, il y a comme une réconciliation des contraires dans le taoïsme, dans la philosophie qui est saine, La pesanteur et la grâce de Simone Weil, c'est un traité de réconciliation des contraires. Acceptons la pesanteur pour être plus dans la grâce, je veux dire, cette espèce de plongée dans la pesanteur pour atteindre la grâce. La grâce ne s'atteint pas en regardant toujours par en haut, les mains jointes, en disant « plongeons dans le cosmos ». C'est grâce à une plongée dans l'obscure pesanteur du monde qu'on touche la grâce, ça c'est Simone Weil.
J'imagine que tant qu'on ne voit pas son brouillard, on ne voit pas sa vie finalement.
Puis en même temps, je ne sais pas si on voit le brouillard. Je pense qu'il faut accepter cet état brouillardeux qu'on ne voit même pas, qui fait partie de nous. Plus on accepte ce brouillard, mais perpétuel dans lequel on doit fonctionner, plus il y a possibilité d'être en paix relative avec le monde et avec soi-même. C'est que, donc, il y a comme une avancée évidente, puis il y a aussi une avancée qui mène à la mort, qui est détestable, mais dans la mesure où c'est le brouillard, il y a possibilité de rêver ce monde-là. Puis après ça, on se dit, au lieu d'être en colère quand il y a quelque chose qui nous met en colère, mais tentons de rester aimant. Et c'est pour ça que la parole du Christ est si brouillardeuse. C'est presque... Ça me jette à terre. J'en parle à mes étudiants, pas parce que je voulais convaincre d'une religion, mais parce que j'ai jamais lu une parole qui nous plaçait dans un état de si puissant brouillard en disant « aimez-vous les uns les autres et acceptez de vous aimer même si les autres sont parfois des ennemis et même si parfois les autres veulent vous pendre. »
Mais Krishnamurti, lui, de son côté, il propose de voir avec les yeux baignés de vide.
Oui, ben oui, ben oui. Ça, c'est très taoïste. Ça, c'est très, très taoïste, ça.
Oui.
C'est profondément taoïste parce que le vide n'est surtout pas le néant. En fait, dans le taoïsme aussi, la notion de vide est essentielle à la notion de plein. Sans le vide, sans le vase vide, le vase sert à rien. C'est le vide du vase, comme le vide de la maison, qui permet d'habiter la maison qui devient pleine. Il y a un jeu entre le vide et le plein. Donc, il faut accepter ce vide qui est surtout créateur de plénitude. Mais il y a une immense différence à faire entre le néant et le vide. Ça, c'est une question majeure.
Mais c'est quoi la différence entre le néant et le vide?
Oh mon Dieu, là, je réfléchis avec mes étudiants. Là. En fait, vite comme ça, le vide est associé à l'être. En fait, de façon taoïste, le vide, c'est le non-être. Mais ce non-être qui est générateur d'être. Le néant, c'est rien. C'est cette espèce d'obscurité totale d'où on sort pas. Le néant, c'est le trou noir. En fait, le néant, c'est l'absence totale de mystère parce que quelque part, voici un néant qui nie même la validité du mystère.
Jean Désy, je vais renommer le titre de votre livre « L'irrationalité nécessaire de Platon à Einstein, les poètes ». C'est un essai qui a été publié aux éditions XYZ et je vous en souhaite une autre distinction, un autre prix, je ne sais trop, parce que c'est un livre qui m'a fasciné et c'est sûr que c'est un livre que j'ai envie de relire. Évidemment, on parle de Carl Jung, de Clarisse Lispector, d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime tant, Simone Weil, Max Planck, là-dessus, enfin, il y a plein de noms. Il y a les poètes aussi, il faut en parler, parce que vous aussi, c'est un lieu où vous vous exprimez énormément la poésie. Et ceux qui connaissent votre page Facebook, on a la chance de vous lire régulièrement avec de très, très belles images. Je vous en remercie. C'est toujours une soie pour le cœur de vous lire. Est-ce que vous avez d'autres intentions d'écriture? C'est sûr, j'ai l'impression de poser une question dans le vide. Je dis bien dans le vide. Parce que vous, vous avez la plume alerte.
Ben non, je travaille sur un roman qui s'appelle Prof, c'est quelques mois, mais c'est à longue haleine. Là, de façon plus tangible, s'annonce pour les prochains mois, si tout va bien, un conte-poème qui s'appelle « Non, je ne mourrai pas », publié chez Mémoire d'Encrier. C'est surtout aux éditions Mémoire d'Encrier que j'ai publié mes recueils de poésie avec Rodney Saint-Éloi, l'éditeur. C'est que là, c'est un conte d'un personnage qui se meurt les jambes cassées sous un traîneau à moins 30 au mois de mars au Nunavik et qui réfléchit justement sur les thèmes que vous avez si gentiment abordés, là, en tout cas avec autant de qualité, les thèmes de l'au-delà, de la mort, du néant, de la faute et de la vie après la mort ou de la vie sans la mort ou la vie... En tout cas, voici une thématique très difficile à mon point de vue, mais dans un conte qui se passe dans la toundra. Et ça devrait exister à un moment donné.
Et j'imagine que, bon, avec cette pandémie qui nous occupe beaucoup, il n'y aura pas de conférence nécessairement très bientôt, ou si c'est quand même un projet?
Ben, en fait, ce qui a nourri profondément ma vie depuis 5, 6, 7 ans, c'est des spectacles de poésie que j'ai donnés avec trois de mes amis musiciens qui s'appellent Songe Nomade, on les a donnés à quelques reprises. Un autre spectacle qui s'appelle Au Nord, mon amour, avec une amie chanteuse qui s'appelle Julie Rousseau et une amie violoncelliste, Marie-Lou Cotinet. J'ai créé un spectacle aussi avec une Wendat remarquable, André Lévesque-Sioui, qui s'appelle Wendat Québec. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup participer artistiquement à des spectacles avec des musiciens, où là, la parole poétique et la musique font en sorte que là, tout à coup, on se trouve sur scène. Et la parole, plus que jamais maintenant, la parole poétique demande à être exposée. Puis c'est certain que le web est un outil fort, plus qu'intéressant, là, majeur. Le problème, par exemple, c'est qu'il ne faut pas limiter la vie au web, ce qu'on nous propose maintenant.
Parce que le lien, finalement, quand vous êtes devant un public, le lien, la relation avec l'autre est très différente.
Ben en fait, pour faire une histoire courte, je crois profondément, moi, au lien dans ma âme. Et quand je dis âme, c'est la conception le concept de William Blake qui fait, c'est la fusion de la psyché et du soma. Donc, quand je donne un cours avec des étudiants en classe, j'ai un sentiment profond d'avoir une possibilité d'un contact dans ma âme. À distance, auditivement ou visuellement, on peut le nouer, ce contact-là, mais c'est toujours beaucoup plus délicat et beaucoup plus dangereux et moins puissant. En fait, le rapport du spectacle, de la scène, je pense que les comédiens font du théâtre parce qu'ils souhaitent ce rapport d'âme à âme. Mais évidemment, il y a d'autres arts, comme le cinéma est un extraordinaire art, mais la technique doit jamais nuire à l'âme. La technique doit augmenter les possibilités de contact d'âme à âme.
Alors, vous êtes une très belle âme, Jean Désy. Je suis très contente d'avoir pu échanger avec vous sur ce livre « L'irrationalité nécessaire » de Platon à Einstein, les poètes. Un essai chez XYZ qu'on peut retrouver, j'imagine, dans toutes les librairies du Québec en ce moment.
Ben, je ne sais pas. Je sais qu'il vit un peu, là, mais c'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe. Mais les librairies... vont bien ces semaines-ci, ces mois-ci. Là. Oui, là, l'irrationalité nécessaire est un livre disponible. Combien de temps? Ça dépend du mystère auquel il faut croire.
Ben, merci beaucoup, Jean Désy. Ça a été un grand plaisir.
Moi qui vous remercie, ça a été d'excellentes questions. Merci beaucoup, j'apprécie.
Au plaisir. Et je dis aussi un gros merci à Pierre de Garnier à la mise en onde. C'était Marie-Lou Brousseau. Je vous dis à la semaine prochaine.
Tente penne ma metnenten Ua pece guance tut man Nu ci ci su cian Nin in iu ian Ci guan ma ci ci tut man Ci guan uma ci min ca Ценутат ке ти учен Танте мачей ти ти ко Tutman, ma chachi petwita.